En effet, il y a quelques jours, des informations relayées par des médias mainstream faisaient état du fait que la situation dans les frontières soudano-éthiopiennes s'était aggravée et que l'armée soudanaise avait lancé une offensive d'envergure dans ce secteur mardi 28 juin, après la mort de 7 soldats et d'un civil. Mais de nouvelles informations concernant une présence de plus en plus prononcée de la Chine dans cette région nous donne plus d'indications quant aux intentions de ces déstabilisations entre ces deux pays. Remontons un peu en arrière avec ce qui s'est passé le 28 juin dernier, selon les médias mainstream. Le triangle d'El-Fachaga est un territoire agricole très fertile, arrosé par une abondante saison des pluies, enserré entre le désert soudanais et les collines arides de l'Éthiopie. On y cultive sur 260 km³ de sésame, de sorgho, du teff, mais Éthiopiens et Soudanais s'y battent aussi depuis longtemps à coups de mortier, de raids commandos et d'assauts d'infanterie. Ces derniers temps, la question du triangle d'El-Fachaga est redevenue un enjeu politique dans les deux pays. Au Soudan, alors même que des milliers de manifestants exigeaient le retour des civils au pouvoir cette semaine, la télévision publique soudanaise affichait au nom de l'Union sacrée le hashtag « Nous sommes tous les forces armées » en rendant compte des opérations militaires. Mais une information concernant l'ouverture d'une route maritime chinoise avec le Soudan nous fait penser que toute cette tentative de déstabilisation avait un objectif bien plus profond. Depuis le 11 juin, un navire cargo ayant démarré du Soudan est en route vers le port chinois de Guingdo pour inaugurer la première ligne maritime directe entre les deux pays, pour Pékin qui a rallié le Soudan à son projet de nouvelle route de la soie. L'objectif est de doper les échanges avec Khartoum. À travers cette nouvelle ligne maritime, Pékin et Khartoum annoncent vouloir marquer une ouverture majeure pour élargir et revitaliser les horizons de la coopération économique entre les deux pays. Pour Mohamed Ahmed El Zayn, secrétaire général de l'Union des employeurs soudanais, ce partenariat contribue à augmenter les échanges commerciaux et économiques entre Khartoum et Pékin, autant que sa contribution à réduire le coût du transport des exportations vers la Chine et à faciliter les importations du Soudan. Il semblerait que c'est via les rebelles du TPLF qui ont déjà à plusieurs reprises tenté de créer une guerre entre l'armée soudanaise et l'armée éthiopienne que l'axe US-OTAN cherche à créer une tension interrégionale entre les deux parties. En rappel, 9 groupes rebelles éthiopiennes ont signé une alliance à Washington baptisée Front uni des forces fédéralistes et confédéralistes éthiopiennes. Et leur mot d'ordre, notre intention est de renverser le régime, a déclaré le représentant du TPLF lors de la signature de cette alliance à Washington. En fait, ce que chercheraient le Mossad et les autres puissances occidentales et leurs alliés, c'est de déclencher une crise dans cette région de l'Afrique et de la transformer en une région comme le Soudan du Sud, et donc d'avoir un tremplin pour d'autres projets divisionnistes à venir. Pourtant, les pays d'Afrique sont bien décidés à mettre en échec ces plans néocoloniaux et de s'unir pour mettre une bonne fois pour toutes les présences occidentales néfastes hors du continent. La République centrafricaine lance officiellement dimanche 3 juillet le projet Sango. C'est le nom de la crypto-monnaie voulue par le président Faustin Archange Touadéra dans le sillage de l'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle fin avril. Le chef de l'État devrait prendre la parole sur la plateforme dédiée à cette nouvelle monnaie qui serait adossée aux vastes ressources naturelles du pays. La crypto-monnaie est révolutionnaire, elle va démocratiser la démocratie. C'est dans une vidéo de 6 minutes chantant à la fois ses louanges, celle de la Centrafrique et des crypto-monnaies que Faustin Archange Touadéra donne rendez-vous pour le lancement officiel du Sango. Attendu en ligne dimanche soir sur la plateforme dédiée, le chef de l'État sera accompagné de 4 ministres et de 4 conférenciers présentés comme des spécialistes du blockchain, la technologie censée préserver la sécurité et le stockage des crypto-monnaies. Cette nouvelle décision rentre clairement dans le droit fil des politiques indépendantistes et anti-Occident du président Touadéra. Après avoir repris en main l'armée nationale et l'avoir renforcée afin de diminuer le poids des forces étrangères dans le pays, qui ont pendant des années contribué à l'affaiblissement de l'armée et l'insécurité, et ensuite après avoir restreint les vols d'espionnage français au-dessus du ciel centrafricain, et enfin, depuis le retrait d'une grande partie du contingent de la MINUSCA du pays, le nouveau volet de la lutte anticoloniale de Touadéra est en cours et c'est à travers un détachement du système financier dirigé par l'Occident et la monnaie colonialiste française CFA que la RCA compte se dédouaner totalement de la colonisation moderne. Avec l'argent des investisseurs, le projet Sango transformerait l'île des singes située face à la capitale sur la rivière Ubangi en île de la crypto, une zone franche sans taxes où palaces, casinos, grands stades et parcs aquatiques verraient le jour. La valeur du Sango serait garantie par les multiples ressources minières centrafricaines. Les partisans du projet affirment qu'il permettrait de faire entrer des capitaux dans le pays et d'investir massivement dans les infrastructures. Cette initiative centrafricaine est le début d'un vrai processus contre la monnaie colonialiste, le franc CFA, dans laquelle beaucoup voient les vestiges de l'époque coloniale française. La RCA aurait ainsi choisi de confier l'architecture de sa nouvelle monnaie à des acteurs qui dépendent des marchés et des capitaux à risque. L'ambassadeur d'Espagne a été convoqué par le gouvernement malien après des propos du chef de la diplomatie espagnole qui a déclaré ne pas exclure une intervention militaire de l'OTAN dans le pays sur fond de problèmes migratoires et terroristes. Nous avons convoqué aujourd'hui l'ambassadeur d'Espagne au niveau du ministère des Affaires étrangères pour élever une vive protestation par rapport à ses propos, a déclaré le soir du 1er juillet le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, lors d'un entretien à la télévision nationale. Nous avons analysé la situation avec Luc Michel, géopoliticien.
Il faut comprendre quelque chose, c'est que les Français ont été évincés du Sahel par les Américains. Les Américains, depuis 2019, sous Trump, mais maintenant les projets sont repris par Biden, ils ont un projet qui est d'américaniser la guerre du Sahel et de l'otaniser. C'est un projet qui est bien avancé. Il s'agit de transférer le centre de la guerre du Mali, où l'avaient déployé les Français, au Niger, qui est le centre de la guerre américaine au Sahel. Il y a des bases militaires américaines, allemande et espagnole justement, et il y a là-bas le centre de la guerre américaine des drones. Donc les Américains sont en train de déployer des forces et ils ne sont pas décidés à lâcher le Sahel. Ils ont déclaré la guerre à la Russie en Afrique il y a quelques semaines et aux États africains qui soutiennent la Russie. Il y a ce projet de loi économique qui vise à sanctionner les États africains et la Russie lorsqu'elle tente de faire des investissements économiques en Afrique. Il y a la création d'une unité spécialisée pour mener la guerre médiatique, ce qu'ils appellent la guerre de communication. C'est le Global Engagement Center qui a déjà entamé une campagne de diffamation contre les Russes, centrée sur le Mali et la Centrafrique, et qui a notamment servi de base au rapport de l'ONU qui a servi à renouveler le mandat de la MINUSMA. Quel rôle jouent les Espagnols dedans? Il faut savoir que le dirigeant de la politique extérieure de l'Union européenne, la PESC, c'est maintenant l'Espagnol Borrell. Borrell, c'est un dirigeant atlantiste qui a fait toute sa carrière dans les milieux de l'OTAN et c'est un domestique des Américains. Le rôle que l'Espagne joue, c'est d'être un des remplaçants de la France, notamment dans le Sahel. C'est pour cette raison d'ailleurs que les Américains ont aidé les Espagnols à installer une base militaire au Niger. L'Espagne sert donc à menacer le Mali, mais les Américains également, puisqu'ils ont menacé les Maliens au Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité, le bras de fer entre la Russie et la Chine au Conseil de sécurité s'est fait non pas contre la France, mais contre les États-Unis et la Grande-Bretagne, soutenus par l'Espagne. Voilà donc ce qu'il faut savoir. Il y a d'autres pays où l'Espagne joue un rôle également, par exemple dans la déstabilisation de la Guinée équatoriale, où les services secrets espagnols et les services du Premier ministre espagnol animent un lobby néocolonial contre la famille Obiang en Guinée équatoriale. Ils soutiennent notamment des groupuscules qui s'appellent la CDPS ou le groupuscule Troisième République. Voilà tout ce qu'il faut donc savoir. Le Mali n'est pas décidé à se laisser faire et ne pratique pas l'hypocrisie diplomatique. Comme le Mali avait mis dehors l'ambassadeur de France, interdit les médias français, France 24 et RFI, eh bien aujourd'hui, le Mali a convoqué l'ambassadeur d'Espagne et on ne doit pas exclure que ces menaces inacceptables contre un État souverain ne soient pas suivies d'une expulsion de l'ambassadeur espagnol. Mais il faut donc comprendre quelque chose, c'est que au moment où les populations du Sahel et les forces politiques sahéliennes sont mobilisées contre la France, elles ont, comme on dit, une guerre de retard. La guerre aujourd'hui, évidemment, elle se mène encore contre la France, mais la France est une puissance en déchéance. La guerre se mène contre les États-Unis et ses alliés de l'OTAN, en particulier les Espagnols et les Allemands de Berlin.
Premier producteur africain d'or, le Ghana exporte encore la totalité de sa production vers des raffineries extérieures. Afin d'augmenter la valeur ajoutée et les revenus générés par le secteur orifère, Accra va inaugurer sa première raffinerie d'or, la Royal Ghana Gold, d'ici la fin du mois d'août, a révélé Georges Mirekou Doukière, vice-ministre des Terres et des Ressources naturelles, en charge des mines. Selon la presse économique locale, une demande d'affiliation a même été déjà soumise à la London Bullion Market Association pour certifier la production de la raffinerie afin d'assurer les exportations dans les meilleures conditions. Pour rappel, le Ghana est le premier producteur africain d'or, avec 129 tonnes en 2021, selon les données du World Gold Council. Cependant, l'or du pays est encore essentiellement raffiné à l'extérieur, ce qui le prive des revenus captés par ce processus de la chaîne de valeur. L'objectif du gouvernement ghanéen est de porter la part de la production transformée localement à 30%. La construction des interconnexions électriques reliant les lignes de transmission du Kenya aux réseaux électriques nationaux éthiopiens et tanzaniens sera achevée en 2022. A annoncé vendredi Anthony Iwakumta, directeur général par intérim de la société publique Kenya Electricity Transmission, selon M. Iwakumta, qui s'est exprimé lors d'un forum sur l'électricité dans la capitale kenyane Nairobi, la ligne Kenya-Éthiopie sera achevée en octobre, tandis que la ligne Kenya-Tanzanie le sera d'ici décembre. Le but des connexions avec les pays voisins est d'opérationnaliser le pool énergétique de l'Afrique de l'Est, qui a pour ambition de faciliter le commerce régional de l'électricité, a-t-il expliqué lors de la troisième conférence annuelle de recherche de Ketraco, révélant également que l'interconnexion Éthiopie-Kenya comprend une ligne de transmission à haute tension de 612 km du côté kényan et qu'elle sera financée par un certain nombre de donateurs, dont la Banque africaine de développement. La consommation des ménages et les investissements dans les infrastructures resteront les principaux moteurs de la croissance de l'économie camerounaise sur le moyen terme. La croissance du PIB réel du Cameroun devrait passer de 3,4% en 2021 à 3,6% en 2022 et à 4,4% en 2023, a estimé Fitch Solutions Country Risk and Industry Research dans un rapport publié le mercredi 27 juin. La croissance du PIB réel du Cameroun s'accélérera pour atteindre 3,6% en 2022, contre une estimation de 3,4% en 2021. La consommation des ménages restera le principal moteur de la croissance durant l'année en cours grâce à l'assouplissement continu des restrictions de mobilité liées à la pandémie du coronavirus, souligne le rapport intitulé « Une croissance assez forte au Cameroun dans les années à venir ». Détenu à 85% par l'Australien Aura Energy en Mauritanie, Tiris est l'un des multiples projets d'uranium dont le développement s'est accéléré ces derniers mois en Afrique. L'objectif des différentes compagnies est de faire face à la hausse à venir de la demande mondiale. En Mauritanie, la société Aura Energy a annoncé le jeudi 30 juin la nomination de 2 cabinets d'ingénieurs pour mener la conception technique préliminaire du projet d'uranium Tiris. Les entreprises engagées sont DERA Global à travers sa filiale Senet et Walridge Gilbert Aztec qui s'occupera spécifiquement de la conception du circuit de traitement de l'uranium et du sous-produit de la mine qui sera le vanadium. Le travail se concentrera sur les possibilités d'optimisation de l'ingénierie dans le but de maintenir, voire de réduire, la capitale d'investissement déjà faible de Tiris et cherchera également à identifier les possibilités de réduire les dépenses d'exploitation du projet.